Bonsoir, Patrick Momenu de la tribune de ce soir, à savoir Assemblée nationale, installation du nouveau bureau avec à la tête Evariste Boucha, situation sécuritaire au Nord Kivu avec les dernières attaques des FDLR et autres groupes armés dans certaines localités du Nord Kivu, et enfin la fin du congrès de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Sonia Lukusamugalu, elle est journaliste à la radio-télévision Digital Congo, une chaîne privée émettant à Kinshasa. Cyril Lebika, rédacteur en chef à Canal Film Télévision, une chaîne de télévision privée émettant aussi à Kinshasa. Et enfin, Ernest Mukuli, rédacteur en chef à la radio-télévision à Mani, émettant depuis Kisangani dans la province orientale et correspondant de l'agence Cité à Grand Lac. Je ne suis pas seule à vous présenter cette émission. Guy Maté est avec moi dans ce studio. Avec lui, nous allons animer ensemble ce débat. Avant d'entrer dans le vif du débat de ce soir, je vous propose de suivre la revue de presse avec Alain Héron pour voir comment les journaux kinois ont abordé les trois thèmes retenus pour ce soir.
Bonsoir. Premier thème de ce journal des journaux, l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête Evariste Boshab. L'Observateur titre à la une Evariste Boshab au perchoir de l'Assemblée nationale. La tempête des tropiques écrit Boshab, le plus difficile commence. Et la prospérité annonce François Mwamba bientôt devant la justice. À en croire le journal, la coalition AMP Palou exige à François Mwamba, député du MLC, des preuves de ses allégations de corruption concernant le déroulement des votes du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Le deuxième thème de cette revue de presse est la situation sécuritaire au Nord Kivu, où les FDLR et certains groupes d'armées sont encore actifs. Selon le Phare, après l'incendie du village de Luofu, les FDLR frappent à Tshibiri et Kibua. Pour le potentiel, les FDLR attaquent la localité de Mianga. Dans ce chapitre sur l'insécurité à l'est de la RDC et particulièrement au Nord Kivu, l'Avenir souligne que la protection des populations et des enfants préoccupe les humanitaires. Troisième et dernier sujet de la semaine, c'est la clôture du congrès de l'UDPS. La manchette s'exclame « Tshisekedi a investi candidat à la présidentielle de 2011 ». D'après l'Observateur, les lampions se sont éteints mardi dernier sur le congrès de l'UDPS. Et le soir de conclure, l'UDPS a opté pour le plan B.
Merci Alain Roux pour cette revue des presses. Thierry Lebika, rédacteur en chef à Canal Kim Télévision. Est-ce que la revue de presse que nous venons de suivre a été suffisamment fournie en informations?
Oui, suffisamment fournie, mais je voudrais seulement ajouter deux petites choses. Déjà par rapport à l'AMP qui s'est fâchée contre François Mwamba, mais pas seulement contre François Mwamba, mais contre notre consoeur, la Radio France Internationale, par rapport à un certain traitement de l'information sur la République démocratique du Congo, il faut en parler un peu. Je n'ai pas été totalement d'accord avec M. Mende, qui agissait, je ne sais pas...
Ministre de l'Information.
Je vais y arriver. Qui agissait, je ne sais pas, comme ministre de l'Information ou membre influent de l'AMP. Il y a un peu un mélange de genre. Et puis, deuxième chose... Le ministre Mende n'a pas semblé s'attaquer à la RFI, mais à la personne de Madame Ghislaine Dupont, sans pour autant la citer. Donc, c'est pas tellement agréable que tout un gouvernement puisse s'attaquer à une consoeur à nous que j'ai rencontrée en Europe il y a moins de 4 mois. La dame semble être mal à l'aise par rapport à ce que fait notre gouvernement. Elle ne comprend pas que le gouvernement puisse à la fois se faire le chaud et le froid, à un moment s'attaquer à elle, à un autre moment venir complètement à genoux pour dire Madame, parlez-nous, parce que la dame est aujourd'hui directrice de l'information Afrique à la RFI. Donc, tout ce qui est dit à propos de l'Afrique passe par sa table. Donc, il faut faire avec.
Merci Thierry. Sonia Lukusamugalu, journaliste à Digital Congo, c'est une chaîne de télévision qui est née à partir de Kinshasa. Que dire par exemple de la une du journal La tempête des tropiques qui titre Boshab, le plus difficile commence très rapidement, cela avant qu'on entre dans le vif même du débat.
Mais je fallait s'y attendre. La tâche ne sera pas aussi facile qu'on l'imagine. Il y a beaucoup à faire. Je crois que le président sortant, avant de partir, il a fait un bilan de ce qu'il a eu à son actif et ce qui reste à faire. Donc il y a beaucoup de travail. Moi, je pense, je prends plus cette affirmation dans ce sens-là.
Merci Sonia Mugalu. Ernest Mukuli, vous intervenez à partir de la province orientale. Vous êtes rédacteur en chef à la radio-télévision à Mani. Quel est le sujet sur lequel vous vous êtes le plus penché dans votre rédaction parmi les trois que nous avons retenus pour ce soir?
Et le sujet qui marque plus notre rédaction, c'est en rapport avec l'avènement du professeur Évariste Bouchab, sur tous les scores réalisés, 329 voix. Vu tout ce qui s'est passé, le moment dur qu'a traversé l'Assemblée nationale avec ses départs forcés du Vital Kamerhe, on ne s'attendait pas que le professeur Bouchab allait chercher plein de voix.
Merci Ernest Moukouli. Premier thème de la tribune de ce soir, Assemblée nationale, installation du nouveau bureau avec à la tête Évariste Bouchab.
Oui, Kelly, fin d'une étape à la Chambre basse du Parlement. Évariste Bouchab et sa nouvelle équipe occupent la table du bureau de l'Assemblée nationale depuis lundi 20 avril dernier. Une étape qui met fin à la crise à la Chambre basse du Parlement, engagée depuis la déclaration de son président, Vital Kamerhe. Il s'inscrivait en faux au déploiement des forces rwandaises en RDC. Aussitôt pris ses fonctions, en même temps que les symboles de ses pouvoirs, à savoir les marteaux, lui remis par son prédécesseur Vital Kamerhe, l'installation du bureau Bouchab s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en RDC. Occasion pour le nouveau président de l'Assemblée nationale d'annoncer l'essentiel de ses priorités et sa vision de la direction de cette chambre du Parlement. Il est dit dans ses propos recueillis par Radio Okapi.
Je vous propose de mettre mon mandat à la tête de cette auguste assemblée sous les signes du renouveau du travail parlementaire. La représentation nationale doit non seulement protéger ses prérogatives, mais aussi s'interdire incursion et immixtion dans les domaines qui ne sont pas les siens. Comment ne pas rappeler à ce propos que la séparation de pouvoirs, principe de base de l'état de droit, n'exclut pas la collaboration s'agissant du vote de loi. On doit honnêtement constater que l'Assemblée nationale a produit un travail remarquable depuis le début de cette législature. En dépit de cette production législative de qualité, l'Assemblée nationale a enregistré à ce jour quelques arriérés législatifs qui devront faire l'objet d'un projet de chronogramme précis à faire adopter par la plénière pour leur apurement progressif. Mais déjà, pour un aboutissement rapide de certaines réformes en cours, l'Assemblée nationale devra mettre tout en œuvre pour assurer le processus d'adoption de certaines lois essentielles pour la République, notamment dans les domaines de la justice, de la décentralisation, de la sécurité, de la police et de l'armée.
Signalons que le nouveau bureau a présenté ses civilités au chef de l'État hier jeudi 23 avril et toujours dans la même journée d'hier. Il s'est tenu au Palais du Peuple la conférence des présidents, une réunion qui rassemble les présidents des groupes parlementaires et différentes commissions de l'Assemblée nationale. Et c'est Évariste Bouchab lui-même, président de l'Assemblée nationale, qui l'a présidé. À l'issue de cette réunion, il a décidé qu'une plénière se tiendra lundi prochain. Avant d'aborder notre thème, juste savoir comment vous avez perçu le déroulement de la cérémonie d'investiture du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Rapidement, en une minute, chacun commence par Sonia Mogalo.
Bon, merci. C'était un grand événement, hein, surtout que c'est un événement qui arrive au moment où on ne l'attendait pas. Bon, c'était une législature partie pour 5 ans et voilà qu'elle est interrompue pour ce qui a un changement. C'est vrai que c'était inattendu, mais c'était plein d'émotions aussi. On a vu le changement entre ces deux personnes qui, selon les rumeurs, ne s'entendent pas. Mais bon, on a mis en avant-plan le travail d'abord et les humeurs à côté. Et je crois que c'est comme ça même que doit se dérouler la vie. Les institutions restent, comme on le dit, les hommes. On l'a bien senti au cours de cette cérémonie, mais seulement je voudrais qu'après la cérémonie, les deux hommes restent en contact pour une franche collaboration. Chacun a une expérience à partager et pour l'avancement de l'Assemblée nationale. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade.
Ernest Moukouli ?
Oui, à mon avis, bien sûr, il y a eu trop de candidats. On a remarqué que la cérémonie, le processus de vote a pris toute la nuit. On a compris quand même qu'il y avait nécessité qu'on puisse avoir cette nouvelle équipe pour la direction de l'Assemblée nationale. Et puis, ce que nous avons aussi, c'est que la disponibilité du président sortant, Vital Kamerhe, à pouvoir mettre son expertise pour la bonne marche et la continuité de l'action de l'Assemblée nationale.
Merci Ernest. Thierry Lébita, rapidement.
cérémonie tout à fait normale, hein, un caméra qui partait, un Beauchamp qui arrivait. Mais ce qui m'a un peu marqué, c'est la demande de pardon de caméra, notamment à ses collègues, pour tout ce qu'il aurait fait, qui aurait pu blesser ses collègues, mais également le pardon auprès du chef de l'État. Bon, je n'ai pas très bien compris pourquoi caméra demandait pardon au chef de l'État, à partir du moment où son discours qui venait avant ce discours d'au revoir disait, il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais été contacté pour l'entrée de Rwanda, République démocratique du Congo, et il disait qu'il insistait qu'il n'a jamais compris tout ce dont on lui accusait. Vous ne comprenez pas ce dont on vous accuse, mais vous demandez pardon. Je n'ai pas très bien compris. Bon, c'est là, je crois, à des répercussions sur les résultats que nous avons connus plus tard et son courant qui n'a peut-être pas existé. On pourra en parler.
Merci Thierry. Évariste Beauchamp a placé son mandat sous le signe de la refondation du travail parlementaire. Comment interprétez-vous cela, Ernest Moukouli?
La refondation peut-être par rapport à tout ce qui est arrivé dans avec cette affaire de Vital Kamerhe qui a été forcé à pouvoir démissionner. Et je pense qu'Evariste Beauchamp était vraiment conscient de la perte. De la perte de confiance qui animait déjà l'ensemble des députés, surtout de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Il ne pouvait que dire que c'est là pour qu'il puisse arracher la confiance de ceux-là qui l'ont élu avec 309 voix. Je pense que Beauchamp a bien joué en invitant les députés à pouvoir chercher un renouveau dans le travail parlementaire. Sinon, il allait toujours être considéré comme étant quelqu'un qui est venu endurcir la situation que Vital Kamerhe avait déjà bien préparée. Le travail des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. À mon avis, le professeur Beauchamp ne pouvait que dire cela parce que dans son discours, il a même dit qu'il demande aux députés de pouvoir s'interdire des incursions et des immixtions dans les domaines.
On va y revenir, Ernest Moukouli. Vous avez un mot à placer?
Je pourrais revenir après.
Ok, merci Ernest. Vous avez une question à poser?
Oui, ma question, je la pose à Sonia Lukusamou. Et lorsque Évariste Beauchamp dit qu'il va instaurer une nouvelle gestion du temps parlementaire en donnant un temps de parole aux différents groupes parlementaires, par exemple, n'y voyez-vous pas une sorte de restriction au droit à la parole?
Non, au contraire. Il dit qu'il va instaurer un temps de parole. Je ne pense pas qu'il ait dit que ce temps ne serait pas équitable. Déjà que son prédécesseur donnait le temps de parole à tous les députés, ceci de l'opposition ou de la majorité, s'il continue sur la même voie, c'est très bien pour lui. C'est-à-dire que c'est bien parti. C'est là que je reviens sur le renouveau du travail parlementaire dont on parlait tout à l'heure. Je pense que Kamerhe avait déjà établi des bases. Je reviens un peu sur son exhortation dans son discours. Je vais appeler ça son discours d'au revoir. Il a dit, moi j'ai semé, Beauchamp va arroser, et Dieu va faire croître en prenant justement en référence la parole de Dieu. Il parlait de Corinthiens, qui parlait de Apollos qui avait planté, vous connaissez les Écritures. Donc je pense que Évariste Beauchamp ne fera que continuer l'action de Kamerhe. C'est pas sorcier, c'est tout ce qu'il a à faire en fait. Kamerhe a été clair, ce qu'il a fait. Il y a des choses positives pour lesquelles il se félicitait, c'est tout à fait légitime. Ce qui n'était pas bien, Thierry l'a dit, il a demandé pardon, c'est tout à fait normal et même c'est un signe de grandeur et d'humilité parce que ce n'est pas tout le monde qui demande pardon, c'est un signe d'humilité. Alors, Évariste Beauchamp devra entretenir ces bonnes relations qui existent déjà entre les parlementaires en donnant justement ce temps de parole équitable pour ne pas créer des frustrations au sein des uns et des autres. Donc, sur cette voie, sur ce point de vue, en tout cas, je pense qu'il a réfléchi dans ce sens.
Et cela fait partie de la refondation du travail.
Je ne sais pas si ça, je vais appeler refondation, si on n'a pas fait tabula rasa, en tout cas de ce qui existait. Il continue sur ce que Kamerhe avait déjà fait. Il va corriger peut-être les erreurs de Kamerhe. C'est tout à fait normal, ce n'est qu'un humain, il a des faiblesses, il y a eu des failles. La preuve, il y a des arriérés législatifs qu'il faudra apurer. Il va continuer et corriger les erreurs, notamment dans ses relations entre institutions. Vous avez vu, on a parlé de la crise, ce qui nous a conduit à là où on est aujourd'hui, la crise entre Kamerhe et les autres, je vais appeler les autres institutions. On a parlé de la crise avec le chef de l'État, encore que moi je ne sais pas trop en quoi consistait la crise entre les individus. Je voudrais prendre ça comme une crise avec les institutions, peut-être que choses avaient été présentées. Bon, il va corriger ça. Il a dit même au sortir de l'audience chez le chef de l'État hier, lorsqu'ils avaient été reçus, lorsque le bureau a été présenté. Et je pense que c'est tout à fait légal et normal. Donc, il n'y a rien de neuf.
Thierry Lemika, revenons toujours sur la recommandation du travail comme signe sur lequel Darius Obouchab va travailler. Est-ce qu'on sent que c'est une remise en question du travail que les députés ont abattu avant qu'il soit le président de l'Assemblée nationale?
C'est réellement une remise en question. Je suis complètement d'accord avec ma consoeur Sonia. Loin de faire une discussion sur la sémantique, je pense que le mot a été prononcé par Sonia. Les mots que Vital Kamerhe et Evariste Obouchab devaient prononcer, ce n'est pas renouveau, c'est plutôt continuité. Sonia l'a dit, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, Evariste Obouchab devait dire que je continuerai sur le chemin de l'honorable Vital Kamerhe, parce que s'il m'était donné de côté Vital Kamerhe, je lui donnerais facilement 8 sur 10. C'est une grande distinction. Pourquoi quelqu'un qui a distingué vous viendrait plus tard pour dire, bon, peut-être que Obouchab voudrait faire 9 sur 10, bon, ou peut-être même 10 sur 10, ce qui n'est pas toujours évident. Je fais un peu de politique. Qu'est-ce qu'on a reproché à Vital pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays et à l'intérieur? On a parlé de 16 péchés de Vital. Dans les 16 péchés de Vital, il n'y a pratiquement rien qui est lié au travail parlementaire. Ça veut dire que même les gens qui ont pourfendé Vital Kamerhe pendant plus de 2-3 mois n'ont pas trouvé des reproches à lui faire du point de vue de son travail parlementaire. Vital Kamerhe a été le plus appelé d'ailleurs par l'opposition. C'est anachronique, il faut le dire ainsi. Vital, issu de la majorité, voté avec une large majorité par ses compères de l'AMP, il est le plus applaudi par l'opposition. Vital a fait un travail qu'on peut même dire parfait. Avec humilité, Evariste Obouchab devrait plutôt parler de continuité. Et puis, j'ai bien peur que Obouchab ne fasse pas mieux que Vital Kamerhe. J'ai bien peur. Evariste Obouchab tombe parce que je lui reproche pas beaucoup de choses. Hein. Je lui reproche peut-être une seule chose, son impulsivité. Vous l'avez vu devant les caméras, devant les journalistes.
Ah, là, c'est vous, hein.
Non, je dis pour tous ceux qui l'ont vu, hein, ses prestations médiatiques, je ne donne pas 5 sur 10. Hein, tout le temps fâché. Si devant des caméramans, des journalistes, il est tout impulsif, devant des députés du genre opposition, devant un Vumba, devant un Mondantemi, je vois de plénières qui peuvent être arrêtées 20 minutes après leur début. Hein. C'est peut-être ça la plus grande difficulté des Evariste Obouchab, et Vital Kamerhe à 8 sur 10.
Donc, Thierry Lemika, pessimiste sur l'avenir des...
Non, il n'y aura pas de renouveau. Il va continuer dans ce que Vital avait déjà commencé, et ce qu'il a de mieux à faire d'ailleurs, c'est de continuer dans ce que Vital a fait. Qu'est-ce que Vital a fait? Vital a tout bien fait. L'administration, le social, des agences et cadres de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas quand le professeur Evariste Obouchab parle de renouveau. Peut-être qu'on ne lui a pas laissé le temps. Hein. Voyons peut-être qu'est-ce que ça signifie renouveau. Bon, je ne sais pas. Peut-être que les cadres et agents de l'Assemblée nationale qui gagnent bien avec Vital Kamerhe seront extrêmement bien payés. Le temps de parole qui a été bien distribué par Vital sera mieux aménagé, peut-être, hein, mais autrement, je ne trouve pas de renouveau.
Apparemment, Sonia, quelque chose à dire.
Oui, je voudrais arrêter quand même mon confrère Thierry Lemika. Il y va trop vite et trop fort dans la jugeote. Il ne faudrait pas juger maintenant. Evariste Obouchab n'a pas encore commencé de travailler. Il ne faudrait pas non plus se fier aux humeurs ou aux attitudes des uns et des autres. Il faudrait qu'il ait le temps d'entrer réellement en fonction. Il n'a eu que sa première conférence des présidents. Il faudrait lui laisser le temps de faire la première plénière, la deuxième et la troisième, voire on dit chasseur naturel, il revient au galop. Bon, c'est vrai, il peut peut-être, comme Thierry le prétend, faire, ça c'est pas lui qui dit, j'essaie de comprendre ce qu'il dit et d'interpréter un peu, faire une petite hypocrisie au départ pour montrer qu'il est capable, pour montrer qu'il va bien faire, donc il va faire mieux, mais ce qu'il est, il le restera en tout cas, s'il est colérique, comme Thierry le dit, il le restera. Mais cela n'empêche pas qu'il arrive à gérer les députés. Ça, c'est une question de caractère. C'est une question qui est intrinsèque à Evariste Obouchab. Il saura aménager son caractère à cette gestion. En fait, c'est une nouvelle fonction à laquelle il a accédé. Il faudrait qu'il s'habitue à cette nouvelle fonction. Il va avoir le temps de s'habituer et de changer si ce sont ses défauts, parce que toute personne a des défauts et des qualités. Mais j'aimerais quand même aussi dire à Thierry
dire que Camérès a fait un travail parfait. Bon, c'est une appréciation qu'il a, mais moi j'aimerais quand même avec humilité qu'on dise que le travail que Camérès a fait devra rester perceptible parce que ce n'est qu'à lui. Merci Sonia Lukusamugalou, Ernest Moukouli, rédacteur en chef à la radio-télévision à Mani, émettant depuis la province orientale. Restons toujours sur le discours d'investiture d'Evariste Bouchard. En rapport avec le contrôle parlementaire, le nouveau président de l'Assemblée nationale a dit que le nouveau bureau va dédramatiser le contrôle parlementaire. Ça veut dire que l'Assemblée pourra-t-elle encore interpeller les gouvernements?
C'est ça la grande crainte, telle que Thierry venait de le dire, lorsque au début de son mandat, il arrive à faire une telle déclaration, ça donne l'impression de ne plus inspirer confiance que l'Assemblée nationale va réellement jouer son rôle de contrôle parlementaire sans complaisance lorsqu'il dit qu'il doit s'interdire d'inclusion et d'immixion dans les domaines qui ne sont pas les siens. Ici, je vois les députés nationaux, on se demande alors, c'est-à-dire qu'il était en train de critiquer les différentes interpellations, les questions orales que les députés nationaux ont adressées aux membres de l'exécutif. On se demande si lui n'était pas de cet avis-là pour qu'il arrive à faire une telle déclaration au début de son mandat. C'est à lui de nous le dire, ou bien au contraire, comment est-ce qu'il veut interpréter cette citation du professeur Évariste Bouchard. À mon avis, comme il l'avait dit, même s'il parle, mais les questions qui sont restées en suspens, notamment l'interpellation du Premier ministre, est toujours d'actualité. Je me demande s'il va constituer un blocage pour ce processus qui a été entamé et bien avant son avènement à la tête de l'Assemblée nationale. À mon avis, je pense que en dehors des suspicions ou bien des rumeurs, le professeur Évariste Bouchard pourra démontrer à la face de la nation congolaise ce que lui a tant parlé de l'inclusion et d'immixion des élus du peuple dans la gestion du pouvoir public. Mais je voulais revenir sur ce que Thierry a dit.
Rapidement,
aussi s'exprimer de quoi il est capable pour la gestion de l'Assemblée nationale au lieu d'afficher déjà des doutes sur. Il avance même. Que sur 10, Thierry, bien sûr, on sait quand même les tempéraments du professeur Bouchard, mais il sait aussi de quoi il sera capable pour gérer les 500 députés de l'hémicycle.
Pour terminer, conclure ce premier thème avec vous, Sonia Mugalou, quelles devraient être les priorités du nouveau bureau de l'Assemblée nationale?
Rapidement, les priorités, je crois que c'est déjà établi. Par rapport, je reviens toujours sur le discours d'au revoir de Camérès, parce que c'est là qu'il a fait un bilan de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Je crois que, par exemple, dans ce qui reste à faire, il y a la loi sur la décentralisation, et je pense qu'il y a la CENI également. Ça doit faire partie, à mon sens, des priorités. Il y a aussi l'affaire de la police nationale congolaise qui doit revenir sur les priorités, parce qu'avec tout ce qu'on vit au Congo, c'est des choses qu'il faudrait absolument prendre en priorité. Et sinon, avec la conférence des présidents, c'est pour ça même que ça existe, les priorités devront être dégagées pour prendre en compte les avis des uns et des autres. Voilà encore une preuve que si Évariste Bouchard commence déjà à convoquer la première conférence, c'est une série délicate pour avoir ses apprécements. Il ne va pas décider en dictateur de ce qui devra être fait, mais il va le faire avec l'avis des uns et des autres, dont des députés tant de la majorité que de l'opposition. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose, je m'en voudrais de ne pas le dire. Quand on parle de dédramatisation, le contrôle parlementaire. Je ne pense pas qu'en disant qu'il va dédramatiser le contrôle parlementaire, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle parlementaire.
Non, c'est une question qu'on se pose seulement. Est-ce que l'Assemblée nationale...
Non, alors l'Assemblée nationale ne va pas jouer son rôle, un rôle reconnu dans son cahier de charge, un rôle de contrôle parlementaire. Il devra absolument jouer ce rôle-là. Non, c'est impossible de s'en défaire. Il faudrait absolument, comme Camérès l'a dit, il y a des interpellations. Le Premier ministre, c'est tout à fait normal, il devra rentrer devant les députés pour se justifier sur certaines questions. C'est comme ça que les institutions doivent fonctionner, puisque c'est reconnu.
Guy Maté, vous avez
Thierry Lébica, lorsque le président Évariste Bouchard dit qu'il faut, en fait, il insiste sur le fait qu'il faut encourager les questions écrites. Et est-ce que c'est pour éviter les questions orales, selon vous?
Non. On est là dans une discussion sémantique. Hein. Il y a plusieurs mots qui reviennent, dédramatiser, incursion. Le mandat de professeur Évariste Beauchamp part sur de mauvaises bases. Lui qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des incursions d'autres institutions de la République, son mandat a commencé avec des incursions. Comment avez-vous, en tant que confrère, en tant qu'auditeur, vu l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et tout le gouvernement qui s'amène au niveau de l'Assemblée nationale? Et pourtant, je me rappelle qu'il y a moins d'un mois, le pouvoir judiciaire a été invité à l'ouverture de la session de janvier, de mars 2009, et les juges ne sont pas venus à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre l'AMP et son président, Vital Kamerhe, de l'Assemblée nationale. Mais le jour de l'élection, il y a une incursion extraordinaire. Pratiquement tous les gouvernements étaient au palais du président.
Sont des séances publiques.
Je ne dis pas que la séance n'était pas publique, mais je parle de tout un gouvernement. Je n'ai pas souvenance que Vital Kamerhe a lancé des invitations auprès des membres du gouvernement pour venir assister à cette élection. Le jour où Vital a lancé des invitations, les militaires ne sont pas venus, les juges ne sont pas venus parce que Vital Kamerhe sentait mauvais. En plus, dédramatiser.
Rapidement,
avec tout ce que les députés de la majorité ont comme problème aujourd'hui, on parle de députés qui pourraient être chassés du PPRD de la majorité. La prochaine fois qu'on interpellera un ministre du PPRD, on va commencer à regarder. On l'a déjà fait au Palais du Peuple, le jour de l'élection, on regardait qui était derrière qui parlait avec qui de l'opposition. Donc, il n'y aura plus jamais un ministre du PPRD qui sera interpellé. On va vous dire, vous là, vous êtes du PPRD, vous allez poser une question difficile à un ministre issu de votre camp, c'est pratiquement la fin du de l'Assemblée nationale pour la situation. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus de grands débats, hein, dédramatisés. Il y a des drames comme...
En 30 secondes.
On a un exemple, non? Le drame qui s'est passé à Kinshasa. Comment il s'est fait que les ministres étant cool ou soient restés au gouvernement? Parce qu'on a demandé aux membres de l'AMP de ne pas voter contre lui. Des Congolais sont morts, mais on a dit aux gens de l'AMP ne votez pas contre Kourou. Toute l'Assemblée était consciente qu'un Kourou avait laissé voler cet avion. La commission Jean-Lucien Boussa, jusqu'aujourd'hui, où est le rapport? On verra le rapport avec Beauchamp. Après que les députés AMP aient eu peur à force d'être dérangés par leur groupe.
Merci Thierry. Deuxième thème de notre débat, situation sécuritaire au Nord Kivu avec les dernières attaques des FDLR et autres groupes armés dans certaines localités du Nord Kivu. Avant d'ouvrir le débat sur ce sujet, l'actualité avec vous, Guy Maté.
Oui, Kelly, un mort et plus de 35 maisons brûlées, c'est le bilan de l'attaque le 18 avril dernier des FDLR au village de Kasiki, à plus de 215 km au nord-ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. Ce village s'est vidé de sa population. Seuls quelques éléments FRDC venus deux jours après l'attaque sont visibles.
Guy, il faut signaler qu'il n'y a pas que les FDLR qui sévissent au nord Kivu.
Oui, en fait, parce que en dépit de la signature le week-end dernier par les groupes armés de l'accord prévoyant la dissolution de leurs organisations, il y a eu échange de tirs au marché Kipese mardi dernier entre les FRDC et les combattants identifiés par les habitants comme faisant partie des groupes Pareco. Kipese est une localité située à 80 km au sud de Butembo.
Merci Guy, je signale aux auditeurs qui nous suivent que vous animez avec moi cette tribune de la presse. Thierry Lebika, rédacteur en chef à Canal King Télévision. Comment peut-on analyser l'attaque de Kasiki alors qu'une opération conjointe FRDC et armée rwandaise venait d'être menée contre les FDLR au Nord Kivu?
Cela revient à nous poser un certain nombre de questions. Ici à Kinshasa, le gouvernement a applaudi totalement la fin de l'opération à Maniétou, mais l'opposition a dit que la Maniétou ne suffisait pas, qu'il y avait encore beaucoup d'autres questions, qu'il y avait encore des choses à régler et tout ça. Malgré l'opération à Maniétou, on doit considérer les FDLR comme étant un réel danger. Un danger, pourquoi? Parce que le Rwanda ne joue pas franc jeu avec la République démocratique du Congo. Apparemment, nous, Congolais, nous n'avons pas conscience de ce qu'ils représentent comme danger les FDLR. Le Rwanda est venu chez nous en République démocratique du Congo avec militaires et tout ça, armement, soi-disant pour chasser les FDLR. Mais quel est le résultat de l'opération à Magnéto? À peine un millier d'ex-combattants FDLR qui sont rentrés chez eux au Rwanda, et surtout qu'il s'agissait plutôt de gens qui accompagnaient ces militaires-là, hein, des enfants qui sont nés ici en République démocratique du Congo, de femmes. Dans ce cas, on parle de personnes qui accompagnent. En réalité, les premiers concernés ne sont jamais rentrés au Rwanda. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre du recul en l'intérieur de la République démocratique du Congo pendant l'opération à Maniéto. Maintenant que l'opération est finie, qu'est-ce qu'ils font? Naturellement, ils reviennent vers les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que notre pays, la République démocratique du Congo, doit chercher à jouer franc jeu avec la République voisine du Rwanda. Le Rwanda n'a pas besoin que les FDLR puissent rentrer vers le Rwanda. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde le sait, la République rwandaise est le pays où le taux de densité est le plus élevé au monde. Si tous les FDLR rentraient aujourd'hui là, à 17h, aujourd'hui minuit par exemple, au Rwanda, ils n'auront pas où dormir. Et vous savez que le Rwanda a un réel problème foncier. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de terres et ces gens-là, les Hutus-là qui sont chez nous en République démocratique du Congo jusque maintenant, ils ont laissé leurs terres, ils ont même laissé des villas à la capitale Kigali et tout ça. Le jour qu'ils rentrent, le Rwanda aura beaucoup de problèmes. Tout ce que fait le Rwanda, c'est jouer avec nous, la République démocratique du Congo. J'ai bien peur que dans 5-6 mois, le Rwanda revienne encore vers notre gouvernement pour une autre opération. Cette fois, c'était à Maniéto. La fois prochaine, je ne sais pas, ce sera quoi, hein, peut-être au mot, je ne sais pas, je ne connais pas encore de nom. Parce qu'en réalité, on doit le dire, à Maniéto a été une bonne volonté pour la République démocratique du Congo, mais les effets escomptés ne sont pas là. Les FDLR restent toujours et constituent un réel danger, non pas pour le Rwanda, mais pour nous, la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire.
Sonia Mugalo, journaliste à Digital Congo. Thierry parle de franges entre la RDC et le Rwanda. Vous pensez que les deux pays ne se disent pas la vérité, ils se cachent des choses?
Moi, je l'ai toujours dit, hein. Ce n'est pas... je l'ai toujours dit, la RDC et le Rwanda doivent jouer franges. Je m'aligne derrière Thierry, il n'a pas tort. Les relations ont été ternies depuis 1994. Est-ce que nous sommes déjà prêts à renouer? On a dit oui. Moi, du moins, je crois en ce que dit la République démocratique du Congo. Je crois en mon gouvernement. Je crois en mon peuple. Parce que mon peuple m'a déjà prouvé à suffisance que c'était d'abord un peuple hospitalier. C'était un peuple qui aime la paix. Nous avons vu. C'est nous qui avons subi ces exactions. C'est nous qui subissons jusqu'aujourd'hui avec les différentes... Moi, je ne dis pas que les FDLR ne sont pas partis comme a affirmé Thierry, mais avec les différentes poches de résistance. Aujourd'hui, nous avons cette opération Kinia que nous menons avec la MONUC. C'est pour justement aplanir toutes ces poches de résistance. Je prends ça sur le compte des poches de résistance, toutes ces exactions qui sont commises actuellement. Je me plains ou je regrette que les FARDC, notre propre armée, soient aussi impliquées, accusées, tel que la MONUC l'a dit au dernier point de presse. Mais seulement, j'aimerais que, comme Thierry, dire au gouvernement rwandais, c'est à lui plutôt que moi je m'adresse, d'être sincère dans ses engagements. Les FDLR sont partis. Le réel problème de terre, c'est réel. C'est une affaire de depuis, je crois, 1800 quelque chose ou 1902, je ne sais pas, quand les Rwandais sont venus, la première vague des Rwandais sur notre sol. Je pense que cette fois-ci, le gouvernement congolais devra durcir le ton. Avec les dernières exactions, le gouvernement doit se lever et revoir un peu les amis du Rwanda pour se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les derniers FDLR ne sont pas encore partis? Pourquoi ne respectent-ils pas le processus de rapatriement? On a parlé du respect du processus de rapatriement. Le ministre de la coopération internationale et régionale et internationale y est revenu encore lors de sa dernière sortie. Il faudrait que les FDLR parviennent à respecter ce processus, qu'ils rentrent effectivement chez eux. On a été trop clément avec eux. Il ne faudrait pas qu'on arrive à reprendre les armes. Le Congo n'est pas incapable de prendre des armes contre le Rwanda. Il faudrait qu'on se le dise, mais que le Rwanda quand même soit sérieux et rentre chez, et reprenne ses citoyens.
Guy Mathieu, vous co-présentez avec moi cette tribune de la presse. Vous avez sûrement d'autres questions à poser à nos invités.
Oui, à Ernest Mokoli. Thierry Lebika dit que les opérations conjointes FARDC armée rwandaise n'ont pas produit les résultats escomptés. Est-ce que c'est votre avis?
Je ne partage pas tellement le même avis que Thierry. D'abord, parce que les résultats sont là. Il y a quand même une calmie qui est annoncée actuellement. Vous allez vous rendre compte que les méthodes utilisées par ces groupes armés ont essayé de diminuer leur capacité par rapport au moins aux années antérieures, là où on vivait des kidnappings, des massacres massifs. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un changement palpable qui se vit déjà au niveau de cette grande forêt de Kivu. Mais là où Thierry parlait des problèmes de terre. Il y a quelques semaines, moi j'étais au Rwanda, j'ai passé au moins deux semaines là-bas, j'ai traversé presque tous les pays. Ce n'est pas un problème de terre, les Rwandais n'ont pas un problème de terre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des grandes collines là-bas qui ne disposent même pas de, d'habitation et qui vivent beaucoup là-bas. Donc ce n'est pas un problème de terre. Le problème, à mon avis, c'est le problème de démocratisation du Rwanda. Je ne pense pas que tous ces rebelles et les SDLR avec toutes les ramifications, dès qu'ils retournaient chez eux, il y aurait un problème d'espace. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est Kagame qui doit ouvrir l'espace politique, et cela avec les frangiers de la communauté internationale, parce que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont très avancés en matière de rétablissement de la diplomatie entre les deux pays. Je ne peux pas revenir sur les efforts fournis par notre gouvernement et aussi le Rwanda. Mais c'est un problème au niveau de la communauté internationale. À mon avis, c'est comme si c'est pas là où certaines organisations non gouvernementales tirent leur profit. Les pays occidentaux aussi continuent à accepter le chef de ces groupes armés, à pouvoir continuer à rester là chez eux. Ils ont aussi une part de responsabilité. Si réellement ces chefs de groupes armés avouent de ne pas tremper dans les génocides, pourquoi est-ce que ces pays n'acceptent pas qu'ils puissent retourner chez eux et qu'ils puissent affronter la justice rwandaise? Mais parler des problèmes de terre, je ne pense pas. Et puis, nous devons quand même louer le courage entre Kagame et notre chef de l'État, Joseph Kabila, pour avoir osé une fois, et puis ça a produit des fruits aujourd'hui, le CNDP qui était plus mauvais, aussi plus difficile, plus dangereux que le FDR à un certain moment. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, c'est possible avec les deux pays pour que nous puissions trouver solution à ces problèmes de FDR et les autres groupes étrangers. Mais le problème est de la sincérité, de la volonté politique de la communauté internationale et les pays amis de la RDC, soi-disant amis, les pays occidentaux. Ils doivent jouer les frangés qu'aujourd'hui là, Ignace Mouranacha qui se trouve encore en Allemagne.
Ernest, s'il vous plaît, résumez-vous parce qu'on doit passer au troisième terme.
D'accord, je peux me résumer en ces termes. Que les Nations Unies, que les pays occidentaux aident la RDC et le Rwanda à pouvoir terminer une fois pour toutes cette question de FDLR.
Merci Ernest. Thierry, rapidement, parce qu'on doit passer au troisième thème. Un mot, Thierry, un mot, et puis on boucle le deuxième sujet.
En une minute, parce que mes deux confrères m'ont cité, quand Ernest parle de la CALI, je suis d'accord avec lui dans une certaine mesure, mais il ne connaît pas le bilan. Hein. J'espère qu'il s'est renseigné pour voir le bilan. Le 12 avril dernier, ça fait à peine 12 jours, les FDLR ont tué 10 Congolais, ils ont enlevé un chef coutumier qu'ils ont décapité, il me semble, plus tard. En France, si on tue 10 personnes, c'est un drame. C'est tous les journaux télévisés qui vont ouvrir par ça. Mais chez nous, au Congo démocratique, quand on tue 10 Congolais qui n'ont rien fait, qui ont eu seulement la malchance d'être Congolais, je crois que c'est dramatique, c'est extrêmement grave. Ensuite,
on est d'accord avec mes deux
confrères au niveau de la démocratisation. Le Rwanda doit se démocratiser. Il a été au Rwanda, il ne vous l'a pas dit. Hein. Le Rwanda, c'est un État policier. C'est pas comme en République démocratique du Congo. Je me sens bien en République démocratique du Congo, malgré tout ce qu'il y a aussi comme problème. On doit améliorer les choses. Mais au Rwanda, partout où vous êtes, ni quand vous étiez là, si vous ne le savez pas, il y avait quelqu'un qui les surveillait. Et puis aussi, dernier mot, du point de vue d'identité, en moins de ce contradiction, le Rwanda n'est pas si pas le premier, le deux ou troisième pays qui a la plus grande
identité dans le monde. Rapidement, 30 secondes. En fait, moi, je pense que Ernest l'a dit. On a diminué l'intensité des combats. C'est pas ce que nous on veut. On veut que les combats se terminent complètement. On veut retrouver notre paix que nous avions en 93, par exemple. Que ça se termine. On n'a plus besoin de voir un seul Congolais mourir. On en a marre. Et puis, le rôle de la diplomatie congolaise, c'est là que j'appelle aussi notre diplomatie à être forte. Si le Rwanda aujourd'hui est fort, si aujourd'hui on a pitié, j'emploie bien le terme, on a pitié du Rwanda sur le plan international, c'est parce que le Rwanda mène une diplomatie très forte. Le Rwanda se retrouve partout au niveau des hautes instances internationales où il plaide sa cause. Il s'est fait passer pour la victime. Donc nous devons vraiment réactiver notre diplomatie.
Merci Sonia. Notre dernier sujet porte sur la fin du congrès de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi. Il ressort de ce congrès que le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a été un
investi candidat à l'élection présidentielle de 2011. Cette décision a été prise à l'unanimité par les congressistes de l'UDPS qui ont clôturé leurs travaux mardi dernier dans la commune de Lemba. Selon Maître Mukendi, chargé de communication au comité organisateur de ce congrès, l'objectif est la refondation de l'UDPS afin de l'adapter aux réalités du moment. La réaction de notre aide de l'UDPS avec vous, Guy Maté.
Oui, Kelly, au cours de l'émission Dialogue entre Congolais de mardi dernier sur Radio Capi, Maître Guy Marin Bagouma, secrétaire national de l'UDPS chargé de la mobilisation mais opposé à l'organisation de ce congrès, a indiqué ne pas être concerné par ces travaux. Il a qualifié ces congrès, organisés par le groupe de Maître Mukendi, je cite, d'une messe noire.
Merci Guy Maté. Vous présentez ou co-présentez avec moi cette tribune de la presse. Sonia Lukusha Mugalu, Tshisekedi, candidat aux élections en 2011. Vous y croyez?
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Non, excusez-moi, je vais être réaliste. Je dis non. Je m'excuse, je sais que mes frères, mes amis de l'UDPS ont beaucoup de fanatisme. Il faut voir la réalité en face. Ce n'est plus le moment de se voiler la face. Le combat est très rude dans l'avenir. 2011 s'annonce rude. Les candidats doivent affûter leurs armes. Il ne faudrait pas présenter quelqu'un dont on n'est pas sûr d'être élu. Tu sais, Kelly, est-ce qu'il a encore la capacité de présider encore au destiné de la RDC? Tu sais, Kelly, je m'excuse de le dire comme ça. Il est fatigué. Je ne suis pas avec lui.
Il est déjà premier ministre à 82 ans.
Oui, à 82 ans. Mais dans quel état? Il ne faudrait pas qu'on lui impose certaines tâches qu'il ne saura pas assumer. Gizenga, il a eu des conseillers, Mais pourquoi ne pas carrément prendre la relève? Pourquoi ne pas trouver des gens qui sont encore bien sonnés pour faire ce travail-là? Être chef de l'État, ce n'est pas n'importe quoi. On ne s'imagine pas qu'on va être chef de l'État pour ne rien faire. Et s'il y a des problèmes, je ne souhaite plus qu'en 2011, on ait des problèmes à l'Est ou à quelque endroit que ce soit dans notre pays. Mais s'il y a des cas graves, tu sais qu'il sera-t-il capable d'aller au front? Sera-t-il capable d'aller au secours de ces populations victimes? Sera-t-il capable de bouger, d'être dynamique? Si oui, tant mieux. Mais sinon, moi je pense qu'il faudrait que l'UDPS revoie, qu'il trouve quelqu'un d'autre pour remplacer Étienne Tshisekedi. Il peut aller se lancer dans la course, comme il l'a dit, les élections locales, les élections générales. C'est très bien. Moi, je salue ce courage et je salue cette décision parce que j'estime que l'UDPS faisait très mal en faisant sa politique de la chef-ville. L'UDPS doit se lancer dans la course, mais avec quelqu'un d'autre.
Thierry Lébica, rédacteur en chef à Canal Team Télévision. Comment vous expliquez ce silence de Tshisekedi? Donc, tout ce qui se passe dans son parti, mais il se tait, il dit rien. Comment vous expliquez cela?
Bon, je l'ai dit le vendredi dernier, apparemment, le leader Maximo Étienne Tshisekedi est conscient de ses capacités actuelles. C'est plutôt les autres qui sont des deux côtés autour de lui qui ne comprennent pas très bien sa position. Peut-être même que Étienne Tshisekedi ne s'exprime pas de manière à se faire comprendre. S'il y a quelque chose qui m'a le plus marqué au cours de ce congrès, c'est une phrase qui est sortie d'un membre de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Étienne Tshisekedi devient, après ce congrès, un homme organe. Il est de droit président à vie. Vous voyez un parti politique moderne, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans le monde où un homme est de droit président à vie et il devient même un homme organe. Donc Tshisekedi, président national, on ne le sentira jamais, il sera toujours là. Ils disent tout, en bonne santé ou pas, il sera toujours là, capable de gagner un Bemba, un Kabila, un Roubaix-Roi, ou un autre jeune, un Vital Kamerhe, il sera toujours là. Malheureusement, hein, il y a quelque chose qui fait mal. Hein. L'UDPS ne fait plus le poids. On va me dire que le MLC a tué, le MLC a volé, le PPRD a volé, mais voyez-vous, un grand parti politique qui organise son congrès avec 62 000 $ américains au lieu de 1 million attendu, c'est normal. Mais c'est plus le poids.
Merci Thierry. Guy Maté, une dernière question à poser à Ernest Corps, rapidement.
Ernest Mokouli, comment peut-on envisager l'avenir de l'UDPS dans un tel climat? En 30 minutes.
Non, en 30 secondes. Je pense que Tshisekedi doit libérer l'UDPS. Et Tshisekedi, je me demande pourquoi est-ce que Radio Capi n'arrive pas à joindre Tshisekedi, donne son dernier mot lorsque c'est...
Nous avons tenté, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Allez-y rapidement, en 15 secondes.
Donc, que tu sais qu'il dit, libérer l'UDPS, ça pourra aussi satisfaire les imbéciles jusque-là qui qui voulait avoir un ministre, un député de l'UDPS aujourd'hui là, ça ne marche toujours pas, qui libère Valentin Moubok, qui libère Maître Moukendi, qui puisse affronter aussi les autres et les autres partisans qui se sont disséminés à travers les pays, ça serait une bonne chose comme ça.
Merci. Voilà,
quand même, ça va renforcer l'opposition politique.
Merci Ernest Moukouli, c'est avec vous que nous mettons ça à cette émission. Merci aussi à Thierry Lebika et à Sonia Lukusa Mugalu. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et Jean-Claude Tumbakamanga qui a réalisé pour vous cette émission. Nous n'oublions pas toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Héron, Samuel Kachak, Guy Matekia, co-anime avec moi ce débat. En leur nom, qu'elle écoutait, vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Papier.
Oh, Kati, oh, Kati.